Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Eh bien, chers frères, nous allons enfin ce matin terminer notre aperçu assez exhaustif du roi David. Il faut conclure, donc, durant tout l'été, depuis mi-juillet, j'ai prêché sur le roi David, ses exploits, ses péripéties, ses fautes, ses repentirs multiples. Et aujourd'hui, il faut conclure, et avant de conclure, il y a un petit passage encore. Après la rébellion tragique d'un de ses fils, Absalom, qui mourra de façon bien, bien misérable, il y a aussi eu un essai par un de ses fils, l'aîné de ses fils, Adonias. Donc fils de David, mais pas de Bethsabée. En effet, vous savez bien sûr que David a eu plusieurs épouses. Ceci est dans la Sainte Écriture, dans l'Ancien Testament. Le bon Dieu tolérait ces mariages avec beaucoup de femmes, plusieurs femmes en tout cas, voire des concubines. Et David en a eu. Et alors Adonias voulait régner, succéder à David. Et évidemment, comme le dit la Sainte Écriture, il y a eu beaucoup de jalousie entre toutes ses épouses. Ce sera mon fils qui régnera et pas le tien. Et c'est humain. Et on voit que même dans la Sainte Écriture, il y a des choses bien, bien tristes parfois, bien sûr. Mais le bon Dieu voudra que ce soit Salomon qui règne. Et David le voulait aussi. En effet, David, parmi les femmes qu'il a eues, Bethsabée était sa préférée. Et Absalom sera le quatrième fils de Bethsabée. Alors le complot d'Adonias a été éventé. Et Salomon fut sacré presque en secret, puis acclamé roi. Alors Adonias a capitulé devant le nouveau roi qui était sacré. Par la suite, donc dans 15 jours, dimanche prochain, il y aura une parenthèse puisque ce sera le dimanche où nous fêtons la Sainte Croix. Mais dans 15 jours, nous verrons en une seule fois Salomon. Et à propos de Salomon, Adonias essaiera, quand Salomon sera roi depuis quelque temps déjà, de le supplanter. Et on verra aussi la triste fin d'Adonias. Alors Salomon est donc roi et va gouverner avec David quelques mois simplement. Et puis David mourra. Et les dernières paroles de David sont un chant de reconnaissance à Dieu, à Yahvé. Reconnaissance pour toutes les grandeurs, les beautés, les manifestations extraordinaires que David a été témoin durant son règne. David meurt à l'âge de 70 ans et son règne aura duré 40 ans. Règne difficile, règne qui n'est pas encore très établi. On voit, puisque après sa mort, il y aura encore des séditions qui seront étouffées de façon cruelle parfois. Donc ce n'est pas encore une royauté très établie. Mais en tout cas, 40 ans de règne. Et en dépit de ses fautes généreusement expiées, David apparaît comme incomparablement supérieur à son milieu et à son temps. Quand on considère le paganisme autour duquel vivaient David et les Hébreux, David est bien supérieur dans ses vertus, bien sûr, à tous ces païens qui étaient extrêmement cruels, sans aucune pitié. Et on voit que David exerce la pitié. On l'a vu il y a quelques dimanches, lorsque Saül avait voulu le tuer. David pouvait le tuer, aisément. Saül était sans défense. Il fera miséricorde à Saül. Il y a bien d'autres reprises. Eh bien, alors que dans le paganisme, il n'y aurait aucune pitié. Aucune pitié. Il épargne deux fois Saül. Ce père est tendre, parfois faible. On l'a vu par rapport à Amnon, un de ses fils, et Absalom, qu'il a ménagé pendant 7 ans. Et pourtant, David n'a pas été entièrement dupe de la façon dont Absalom voulait le supplanter. Mais David est miséricordieux. Donc, il est tendre par rapport à ses fils. Si on parle de sa foi, elle est simple, elle est profonde. Il a une confiance inébranlable en Dieu. On peut lire les psaumes. Et si vous lisez les psaumes, vous voyez cet état d'âme où David est d'une confiance totale en Dieu. Dieu est mon secours. Qui pourra me vaincre? Qui pourra me nuire? Dieu est mon seul secours. C'est un des psaumes. Et puis, David voulait que Dieu ait un culte solennel. Il aurait voulu construire le temple de Jérusalem, mais il ne le fera pas. En raison, nous l'avons déjà dit, en raison des guerres nombreuses dont il a été soit l'instigateur, soit il faisait les guerres, soit il devait les soutenir parce qu'on l'attaquait. Donc tellement de guerres que Dieu dit, le temple, ce sera ton fils qui le construira. Cependant, David a prévu le temple. Il a accumulé des richesses, beaucoup de richesses, pour sa construction que Salomon fera. Nous verrons comment Salomon fera ce temple. David est un roi juste. Les impôts faibles sur le peuple, très faibles, parce qu'il sait que le peuple n'a pas beaucoup de subsides. Donc, il ne veut pas écraser le peuple, son peuple, par des impôts trop rudes. Il est équitable dans ses jugements. Toute proportion gardée, on peut voir un Saint-Louis avant l'heure. Il a rendu l'équité. Une grande vertu qui, bien sûr, brille tout au long de sa vie, depuis sa conversion, c'est l'humilité. Même avant, quand il était jeune, quand il a tué Goliath, sans doute il le tue, mais il ne vient pas en son nom propre, mais au nom de Dieu des armées. Goliath qui représentait, bien sûr, comme nous le savons, le démon déchaîné contre le peuple hébreu, le peuple qui détenait la vérité du vrai Dieu. Donc David brille par l'humilité, racine de toutes les vertus. Le jour des rameaux, donc bien plus tard, pour notre Seigneur Jésus-Christ, que dira-t-on de notre Seigneur Jésus-Christ? Hosanna au fils de David. Notre Seigneur Jésus-Christ naîtra de David par Nathan, le troisième fils de David et de Bethsabée. Le premier fils est donc mort à l'âge de 7 jours. Le fils de l'adultère. Le deuxième fils, l'Écriture sainte en parle, mais pour ses premières années, après ça, donc il a dû mourir très jeune. Le troisième fils, Nathan. Le quatrième fils, Salomon. Saint Pierre appelle, dans les Actes des Apôtres, chapitre 2, verset 29, appelle David le patriarche. C'est un beau titre décerné à David. Dieu a choisi David de derrière son troupeau pour remplacer Saül parce qu'il savait que David serait un homme selon son cœur qui accomplirait toutes ses volontés. C'est une citation du livre des Rois. Un homme selon son cœur qui accomplirait toutes ses volontés. Quel grand roi David! Et pour terminer, Un petit parallèle entre David et Hérode Antipas. Là, on saute le temps. On y reste avec David, mais on saute bien des années, 1000 ans. Depuis David a vécu 1000 ans environ avant notre Seigneur Jésus-Christ. Nous avons fêté récemment, le 29 août, le martyr de Jean-Baptiste. Et donc, dans quatre personnages, on voit, on peut faire un parallèle. Il y a d'un côté David et Nathan, le prophète Nathan, et l'autre côté, Hérode, le roi Hérode, et Jean-Baptiste, prophète. Et on va voir un petit peu rapidement ce parallèle entre ces différents personnages. David a péché. Nathan le lui reproche. Hérode a péché. Il prend pour lui la femme de son frère. Donc il y a des adultères des deux côtés, des péchés graves. Et des prophètes viennent reprocher à deux rois différents leurs péchés. Presque le même. En tout cas, c'est du même genre, on peut dire. Deux reproches. Comment David et Hérode réagissent-ils ? Totalement différemment. David se repent, pleure ses péchés, chante ce magnifique psaume du miséréré. Il fait pénitence. Hérode, qui reçoit le reproche de Jean-Baptiste, que fait-il ? Il met le prophète Jean-Baptiste en prison. Quelle différence ! Il est courroucé du reproche exact, juste, que lui fait Jean-Baptiste, il est en prison. Pas Nathan. Nathan n'a pas été en prison. Au contraire, David a déchiré ses habits et s'est prosterné, a fait pénitence. David fait pénitence. Hérode ne fait pas pénitence. Il emprisonne Jean-Baptiste et puis, lors de son anniversaire, il dit à la fille d'Hérodiade, la fille du péché, « Que veux-tu que je te donne pour mon anniversaire ? Si tu me demandes la moitié de mon royaume, je te le donne. » Et la demoiselle ne sait pas quoi demander. C'est énorme. Elle va vers sa mère qui lui dit « Tu lui demandes la tête de Jean-Baptiste. » Et Jean-Baptiste sera mis à mort, martyr. Martyr pour la vérité qu'il a dite sans sourciller à Hérode. C'était un péché public d'Hérode. Et donc Jean-Baptiste a reproché le péché d'Hérode. David, au contraire, va briller de vertu en vertu, nous l'avons vu au cours des derniers dimanches. David sera ancêtre de notre Seigneur Jésus-Christ par Nathan, nous l'avons dit. Nathan, aïeul de Saint-Joseph. Pour Hérode, la vie continuera. Il verra notre Seigneur Jésus-Christ. David n'a pas vu notre Seigneur Jésus-Christ. Il a espéré notre Seigneur Jésus-Christ. Il n'a pas vu notre Seigneur Jésus-Christ. Il parle de notre Seigneur Jésus-Christ, bien sûr. Il croit en notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode verra notre Seigneur Jésus-Christ lors du procès. Pilate, ayant entendu que notre Seigneur Jésus-Christ est de Galilée, se frotte les mains en disant « Oh, il n'est pas de ma juridiction. » Et donc il fait aller notre Seigneur Jésus-Christ de son palais à celui d'Hérode. Ainsi, je n'ai plus à m'en occuper. Hérode verra notre Seigneur Jésus-Christ. Que demande Hérode à notre Seigneur Jésus-Christ ? Des miracles, des prophéties, fais-nous rire. Et que fait notre Seigneur Jésus-Christ ? Il ne lui répond pas un seul mot. Jésus autem tachebat. Il se tait. Mais voyez-vous, Hérode a eu une occasion supplémentaire de se convertir. Il a vu notre Seigneur Jésus-Christ. Hérode ne peut pas dire « Je ne connais pas notre Seigneur Jésus-Christ ». Il connaît notre Seigneur Jésus-Christ et son cœur s'enferme contre notre Seigneur Jésus-Christ. Il va se moquer de lui. Il affublé notre Seigneur Jésus-Christ de la robe blanche, la robe des fous. La robe des fous. Cette aube que le prêtre porte à la messe, elle est blanche. Elle représente la folie, mais qui est maintenant sagesse, comme dit saint Paul. Folie pour ceux qui ne croient pas. Sagesse pour ceux qui connaissent et qui aiment Dieu. En effet, le prêtre monte à l'autel. Il vient aussi au sacrifice, à la façon dont vient Jésus-Christ. Hérode a méprisé notre Seigneur Jésus-Christ. David a magnifié notre Seigneur Jésus-Christ. Quelle différence ! Quelle différence ! C'est une grande leçon. La vie des prophètes, voyez-vous, nous apprend beaucoup de choses. L'Ancien Testament, rutile d'enseignement. Bien sûr, l'Ancien Testament est difficile à comprendre. Assez rebutant parfois. En tout cas, déconcertant, déroutant, ça c'est sûr. Mais il faut lire la Sainte Écriture avec la foi et puis avec des bons commentaires. Et tout ce que je vous ai dit depuis plusieurs dimanches, rien inventé. À part ce parallèle entre David et Hérode. J'y ai pensé le 29 août. Et je me dis, tiens, ça fera l'occasion de ma conclusion. Parce que ça m'a sauté aux yeux. J'ai dit, ben voilà, une belle, je ne sais pas, mais en tout cas, une pensée entre deux rois, deux prophètes. Et la façon dont les âmes réagissent face à la vérité, face à notre Seigneur Jésus-Christ. Puisque David anticipe notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, bien sûr, David est une figure de notre Seigneur Jésus-Christ. Humainement, notre Seigneur Jésus-Christ vient de David, un grand, grand roi, un saint roi, qui a péché. Et comme c'est consolant, non pas son péché, ses péchés, mais la façon dont il a regretté ses péchés et fait amende honorable. Il s'est sanctifié. Et pour terminer, David est fêté dans le martyrologe romain le 29 décembre. Et si vous voulez encore un mot pour terminer vraiment sur David et sur toute notre vie chrétienne, on peut se corriger des fautes commises, des défauts, mais selon nos dispositions. C'est ça qui change tout, nos dispositions. Par rapport à la grâce de Dieu. Dieu passe dans nos vies d'une façon différente pour chacun de nous. Comment sommes-nous disposés par rapport à la venue de notre Seigneur Jésus-Christ en nous? Un cœur ouvert, le bon Dieu rentre. Un cœur fermé, le bon Dieu passe. Il ne peut pas rentrer parce qu'il manque l'humilité. L'humilité est la condition sine qua non de toutes les vertus et par conséquent de notre sainteté, ainsi soit-il. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.